en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'examiner avec l'intervention au colloque de Céline Béraud, docteur en sociologie, le statut actuel des ministres du culte. Son intervention s'intitule « Les ministres du culte, des citoyens ordinaires ?» Point d'interrogation.
En 1982, lors de l'élaboration de la nouvelle classification des catégories socio-professionnelles, les statisticiens de l'INSEE ont voulu en finir avec un groupe fourre-tout qui, je cite, « rassemblait des professions jugées inclassables, les artistes, le clergé, l'armée et la police, dans un singulier collage surréaliste inventé non sans humour par les concepteurs de la première nomenclature ». À partir de 1982, le clergé est classé parmi les professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, du travail social et de la fonction publique et assimilée. Alain Desrosières et Laurent Thévenot, qui ont été les auteurs de cette nouvelle nomenclature, se disaient peu satisfaits de cette assimilation. Au contraire, le sociologue Jean-Paul Willem, dans son étude sur les pasteurs protestants, jugeait cette assimilation aux classes moyennes, à la petite bourgeoisie intellectuelle, particulièrement heureuse et pleine de sens. Joël Alouche et Laurence Potzelver, dans leur ouvrage consacré aux rabbins, partageaient tout à fait ce point de vue. On perçoit, à travers l'exemple de la nomenclature des catégories socio-professionnelles, cette tension entre la nécessité pour les pouvoirs publics d'appréhender les ministres du culte comme des actifs ordinaires et les difficultés d'une telle opération. L'INSEE, tout comme l'administration fiscale ou la sécurité sociale, se doivent de leur faire une place. Cependant, toute assimilation à d'autres catégories peut très vite paraître surprenante, voire incongrue, et semble se heurter à un ensemble irréductible de spécificité. Il me faut préciser un petit peu la notion de ministre des cultes, qui est, comme vous le savez, un héritage du régime des cultes du XIXe siècle, où elle désignait alors les agents rémunérés sur fonds publics. Elle marquait la volonté de neutralité de l'État dans ses relations aux groupes religieux. Aujourd'hui, il s'agit d'une expression qui recouvre des situations très diverses. En effet, le maintien de ce vocabulaire ne doit pas masquer les changements du paysage religieux français qui est marqué par une pluralité croissante. L'islam, notamment, est devenu en France la deuxième religion, ainsi que par une complexification de la situation des anciens cultes reconnus. Et là, le cas catholique est particulièrement intéressant. Suite au concile de Vatican II, et dans un contexte de gestion de la pénurie sacerdotale, de nouvelles formes de division du travail religieux ont pris forme. Et aujourd'hui, des diacres permanents, qui sont un petit peu plus de 1800 en France, des permanents laïcs, estimés pour ceux qui sont salariés à environ 5000, dont une très large majorité de femmes, des femmes mariées, pas uniquement des religieuses, loin de là, qui constituent aujourd'hui une minorité, font office de ministres des cultes. Elles sont aumôniers dans l'enseignement public, les hôpitaux, les prisons et même dans l'armée. La situation statutaire de ces différents personnels de l'institution ecclésiale catholique est de fait extrêmement complexe et elle a contribué à brouiller les frontières entre clergé et laïcat. En effet, là où le juriste parle de ministre des cultes, le sociologue, dans une tradition classique influencée notamment par Max Weber, parlera davantage de clergé. Max Weber, on le sait, et les sociologues des religions à sa suite se sont montrés particulièrement sensibles à la question de l'inégale qualification religieuse des individus, c'est-à-dire à la possibilité pour certains d'y exercer une autorité qui soit perçue et reconnue comme légitime par ceux auprès de qui elle s'exerce. Et dans l'œuvre de Max Weber, notamment dans Économie et Société, il y a une opposition entre le clergé et le laïcat, le clergé s'imposant comme un corps de spécialistes prétendant à la monopolisation de la gestion du sacré et la légitimité des détenteurs de ce monopole reposant très largement sur deux phénomènes qui ont été bien montrés par Jean Séguy notamment, c'est-à-dire sur la capacité d'accomplir le rite par le prêtre et la capacité à fonder sa spécificité, voire sa supériorité sur une certaine différence. Cette distinction classique entre clergé et laïcat s'applique cependant, qui est très influencée par le modèle catholique, s'applique cependant assez mal à d'autres religions, notamment à l'islam, d'où, lorsque l'on évoque le cas de l'islam en France, le choix de formules assez vagues. Franck Frégosi parle de cadre religieux musulman et Frédéric Buffin, le directeur général de la CAVIMAC, parle de desservant musulman. Fonctionnel et non ontologique, la conception de l'imam se rapproche indéniablement davantage de celle du pasteur protestant, par opposition à la position médiatrice et sacrale du prêtre catholique. Et le judaïsme, là aussi comme le protestantisme et probablement aussi comme l'islam, peuvent assez largement être définis comme des religions laïques, comme pour avoir recours à une expression d'Ernst Troeltsch. Donc, pour éviter, complexité sémantique, j'emploierai assez largement le terme de professionnel du religieux, qui me semble assez neutre. Avant d'entrer plus directement dans le vif du sujet, j'aimerais faire trois précisions très brèves. La première, c'est de préciser qu'après les communications d'éminents juristes que nous venons d'entendre, mon approche relève de la sociologie, qui, lorsqu'elle étudie les faits religieux, ne saurait faire l'impasse sur le droit. Et ceux qui souhaitent obtenir davantage de précisions concernant les aspects juridiques de ce sujet pourront se référer aux travaux de Georges Dole, dont on trouve une utile synthèse dans l'excellent traité de droit français des religions. Donc, par ailleurs, mon exposé sera très largement centré sur le cas catholique, d'une part parce que c'est celui dont je suis spécialiste, mais aussi parce que l'État sacerdotal a très largement cristallisé au cours du siècle les interrogations, avant peut-être de laisser aujourd'hui la place à la question des imams. Enfin, parce que numériquement, les ministres du culte catholique sont aujourd'hui encore de loin les plus nombreux en France. Les différents diocèses, selon les statistiques de la conférence épiscopale, regroupent environ 20 000 prêtres, dont 13 000 sont encore actifs. La Fédération protestante de France compte 2 000 pasteurs, auxquels s'ajoutent une centaine de pasteurs évangéliques et pentecôtistes indépendants. Du côté du judaïsme, le consistoire compte 200 rabbins, auxquels là aussi il faut ajouter les rabbins Lubavitch, les orthodoxes et ceux relevant du judaïsme libéral, qui a pour la particularité d'admettre les femmes au rabbinat. Donc la spécificité des ministres du culte sera examinée au regard de la législation sociale en tant que membres de la population active, et ce, je précise, en situation de séparation, excluant de fait l'Alsace-Moselle. Donc dans une première partie, je verrai que les ministres des cultes demeurent des professionnels pas tout à fait comme les autres. Puis dans un second temps, je m'attacherai à décrire un alignement lent et incomplet de leur statut sur la législation sociale de droit commun. Alors, les ministres du culte apparaissent comme des professionnels pas tout à fait comme les autres, et ce, pour deux raisons. Il y a une série de raisons que l'on peut observer du côté de l'État, et ces raisons sont pour la plus grande partie un héritage du XIXe siècle et un héritage aussi de l'impact de la loi de 1905. Dans cet héritage, il y a des aspects plutôt restrictifs et d'autres qui sont fondamentalement libéraux. Commençons par les aspects restrictifs. Une restriction qu'il est important de noter est une restriction à la capacité professionnelle des ministres des cultes en matière d'enseignement. La loi Goblet de 1886, qui a été évoquée tout à l'heure sur la laïcisation des personnels enseignants du premier degré, demeure en vigueur. Et j'aimerais ici citer rapidement un cas qui m'a été rapporté par M. Prélot, qui est à la fois révélateur de la persistance de la volonté d'application de la loi et aussi de l'embarras des autorités administratives face à une catégorie de ministres des cultes qui cache en quelque sorte les évolutions internes même au groupe religieux, a fortiori au groupe catholique. En 2002, la direction des affaires juridiques de l'éducation nationale s'est prononcée contre la possibilité pour un instituteur ou un professeur des écoles d'accéder au diaconat. Alors, en 1886, le diaconat permanent était tombé en désuétude depuis plusieurs siècles dans l'Église d'Occident, et il a été rétabli par le Concile de Vatican II, donc dans les années 60. Comme le prêtre et l'évêque, le diacre est un ministre ordonné de l'Église catholique. Il a la possibilité de jouer un rôle dans la liturgie en matière de prédication, de célébration des mariages et de baptême. Mais parallèlement, c'est un homme qui peut être marié et qui exerce généralement une activité professionnelle sur le marché du travail profane. On a donc affaire à un objet sociologique hybride, cumulant l'appartenance au clergé et des caractéristiques d'un état de vie qui le rapproche des laïcs, d'où l'embarras de nos juristes du ministère. Ils se sont fondés sur les critères, de manière assez logique, ils se sont fondés sur les critères internes de l'institution. Ordonné et membre du clergé, le diacre appartient à la hiérarchie catholique. Il doit donc démissionner ou attendre la retraite avant de recevoir l'ordination. Alors, on trouve dans le code pénal d'autres restrictions, ainsi que dans le code civil, concernant la violation du secret, les violences sexuelles ou la captation d'héritage ou de donation. Sans entrer dans le détail de ces dispositifs, on peut remarquer que la situation des ministres des cultes y est associée à celle d'autres professions en position d'autorité dont il s'agit d'interdire les abus. À titre d'exemple, comme les médecins et d'autres professionnels de la santé, ils ne peuvent ni recevoir de dons ni hériter des personnes dont ils accompagnent la fin de vie. Donc finalement, des aspects qui sont assez peu spécifiques. On peut en arriver maintenant aux aspects libéraux de la loi de 1905. On sait que la loi de séparation ne fait que ponctuellement référence au ministre des cultes et la nature du lien unissant ces derniers aux associations cultuelles qui ont dès lors la charge de leur assurer une rémunération n'y est pas juridiquement qualifiée. Les juridictions d'État ont finalement intégré le régime spécifique des ministres des cultes et elles ont admis que ces personnels, dans l'exercice de leurs activités religieuses fondées sur un engagement spirituel, ne relèvent pas automatiquement du droit du travail, malgré l'existence d'un lien de subordination, ni de fait de la compétence prud'homale en cas de litige. Pour autant, le régime du contrat de travail n'est pas prohibé. Donc liberté totale laissée aux organisations juridiques de faire le choix du lien qui les unisse à leur ministre des cultes. Ça donne une situation qui est assez complexe. Dans le cas catholique, la condition salariale a été entièrement rejetée. Cependant, les permanents laïcs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont de plus en plus nombreux, eux, jouissent d'un contrat de travail. Le cas des pasteurs et des rabbins. Pas de contrat de travail, mais assimilation au salariat pour pouvoir participer au régime général de sécurité sociale. C'est au nom du même principe de séparation et de libre exercice de culte que les autorités publiques considèrent qu'elles n'ont pas à porter d'appréciation concernant les qualifications religieuses des ministres du culte. Dès lors, le juge ne contrôle pas la régularité de la décision ayant entraîné le licenciement d'un aumônier. Il y a eu au début des années 80 un arrêt du Conseil d'État concernant le licenciement d'un pasteur pont qui a été jugé parfaitement légal. Donc vous voyez, du côté des autorités publiques, peu de spécificité, si ce n'est cette grande libéralité. Les résistances se sont plutôt manifestées du côté des autorités religieuses et notamment du côté de l'Église catholique. Elles se sont manifestées par le refus de toute assimilation de l'État sacerdotal au modèle de la vocation. Ce qui est tout à fait évident, c'est que le recours aux catégories du droit du travail donne l'impression aux membres de l'Église catholique de pénétrer dans la sphère économique et matérialiste à laquelle leur institution se veut profondément étrangère. Cette contradiction se retrouve très clairement dans les écrits de Georges Dole, qui développe longuement l'idée d'une opposition entre la gratuité du culte et le gain du métier, entre la recherche du profit et le sens de l'offrande. Et toutes les études sur l'épiscopat, notamment dans ses rapports à l'économie, montrent bien le malaise. Pierre Bourdieu parlait du rire des évêques, et Erwan Dantel parle de ce malaise par rapport à l'économie de l'Église. On peut reconnaître cette spécificité du désintéressement de la vocation sacerdotale. Ce qui est intéressant, c'est de la désenclaver en quelque sorte en adoptant une démarche un peu comparatiste et notamment en établissant une comparaison. Les comparaisons peuvent être multiples avec le champ de la recherche, les militaires, mais là où ça me semble assez intéressant, c'est le champ artistique, où là aussi, les artistes se définissant eux aussi à partir du modèle de la vocation, s'opposent à toute forme de qualification extérieure de leur activité et ils mettent en avant l'importance de leur engagement personnel, leur désintéressement, pour marquer leur distance radicale à la production et au marché. Donc ce rejet de la profession a été manifesté en plusieurs occasions par l'Église catholique, notamment lorsqu'il a ressurgi par le biais du développement de l'État-providence et de la généralisation des bénéficiaires à l'ensemble des citoyens, s'est fait dans le cas français, si vous voulez, l'octroi des droits sociaux s'est fait à partir de la condition salariale, ce qui fait que à chaque fois, que ce soit en 1910 avec la mise en place des retraites ouvrières, en 1928 lors de l'instauration des assurances sociales, puis en 1948, lors de d'une loi qui assimilait la prêtrise au statut du travailleur indépendant non agricole, à chaque fois, l'Église catholique a marqué son opposition et a condamné toute tentative d'assimilation. Si bien que le législateur a pris acte, notamment dans la loi Viat de 1950, en considérant que les ministres du culte se trouvaient exonérés de la cotisation patronale des professions libérales, des allocations familiales et de l'obligation d'affiliation à l'assurance vieillesse, en reconnaissant que l'exercice du culte catholique ne constitue pas une activité professionnelle au sens de la législation sociale. Deuxième aspect, le caractère spécifique du sacerdoce a toujours été présenté comme irréductible à tout modèle profane et donc étranger au régime de droit commun. L'idéal sacerdotal est le fruit d'une construction historique et sociale de très long terme qui connaît son apogée à la suite du Concile de Trente, puis de l'école française, de ce développement dans l'école française de spiritualité. Et le sacerdoce, notamment à travers le sacrement de l'ordination, qui constitue qui fonctionne comme un rite d'institution au sens où l'entend Pierre Bourdieu, c'est-à-dire un rite qui sépare non pas ceux qui l'ont reçu de ceux qui ne l'ont pas reçu, mais qui sépare ceux qui l'ont reçu de ceux qui ne le recevront jamais, contribue à marquer une mise à l'écart dans le domaine du sacré du prêtre. De la même façon, le modèle sacerdotal apparaît comme un fait social total au sens où l'entend Marcel Mauss, qui affecte l'ensemble des aspects de la vie de l'individu. Dès lors, on comprend que les objectifs de la sécurité sociale aient pu paraître en profonde contradiction avec la condition sacerdotale et ses irréductibles spécificités. La cotisation à la caisse d'allocation familiale avait peu de sens pour des hommes engagés au célibat. Quant à la caisse d'assurance vieillesse, elle organisait des pensions de retraite. Or, la possibilité de jouir de ce moment de hors-travail pouvait paraître étrangère à un don de soi considéré comme total et définitif. Plus fondamentalement, il me semble que l'opposition qui est si tout à fait manifeste dans le cadre catholique, mais qui s'est trouvée déclinée dans les autres religions aussi, renvoie à des régimes d'autorité qui pouvaient paraître constituer un double système d'allégeance, pouvant entrer potentiellement en contradiction. En effet, accepter le droit du travail, c'était soumettre les ministres des cultes à un ensemble normatif externe, et non plus seulement au droit religieux, dont l'application pourrait être contrôlée par une juridiction spécifique. De la même façon, les caisses de sécurité sociale étaient gérées selon un idéal de démocratie sociale qui pouvait entrer en contradiction avec la structure hiérarchique verticale et descendante de l'institution ecclésiale. Malgré ces résistances, un alignement lent et incomplet du statut des ministres des cultes sur la législation sociale de droit commun a eu lieu, notamment par l'intégration des clercs au régime de sécurité sociale. Alors là aussi, l'un des éléments moteurs à cette intégration est à trouver du côté même de l'Église catholique. On a assisté en effet à un processus de sécularisation interne de la condition cléricale catholique au cours des dernières décennies. La notion de sécularisation interne que l'on doit à François Isambert désigne la manière dont l'activité et la pensée religieuse tentent à s'aligner sur l'activité et la pensée profane. En effet, la sécularisation ne consiste pas uniquement en un recul du religieux dans la société globale, mais aussi à un ensemble de transformations internes aux institutions ecclésiales elles-mêmes. Et il est indéniable que le Concile de Vatican II a constitué une étape importante en ce qui concerne cette sécularisation interne. Au cours d'ailleurs des décennies 1960 et 70, la contestation cléricale elle-même visait à en finir avec une condition sacerdotale séparée et en appelait à ce que la pleine humanité du prêtre soit reconnue. Donc, ils n'ont pas eu, tout en restant attachés à cet idéal sacerdotal, le droit canon de 83, dans la lignée du décret Presbyterorum Ordinis de 65, précise les devoirs épiscopaux en ce qui concerne la rémunération des prêtres, en ce qui concerne y compris en cas de maladie, d'invalidité et de vieillesse, c'est le canon 281. Il rappelle aussi aux fidèles l'obligation qu'il leur est faite de subvenir aux besoins de l'Église et de ses ministres. Enfin, le canon 1274, dans son paragraphe 1, dispose que ce n'est qu'à titre de suppléance que l'Église se substituera au pouvoir civil défaillant pour organiser une sécurité sociale convenable. Donc, possibilité de s'intégrer aux structures laïques. Et afin d'étendre la protection sociale aux prêtres catholiques, la loi du 2 janvier 1978 a prévu des dispositions spécifiques pour les ministres des cultes qui n'étaient pas déjà rattachés au régime général. Je l'ai dit, les pasteurs et les rabbins, c'était par assimilation au salariat, affiliés dès 1947 au régime général. Donc a été créé pour ceux qui restaient, c'est-à-dire essentiellement les prêtres catholiques, une caisse d'assurance maladie ainsi qu'une caisse d'assurance vieillesse qui ont fusionné et ont été intégrés à la CAVIMAC mise en place par la loi du 27 juillet 1999. Donc cette CAVIMAC assure une protection sociale essentiellement à des prêtres catholiques. Elle est ouverte en principe à tous les cultes, mais n'intéresse pas donc ni les pasteurs ni les rabbins. Elle peut aussi concerner donc les orthodoxes, des bouddhistes, des anglicans, certains pasteurs évangéliques et quelques imams. Ajoutons que les compensations financières assurées par le régime général au régime tout à fait déficitaire des cultes se sont accrues. Et ce changement de position, cette intégration croissante des clercs au régime de la sécurité sociale montre, comme l'écrit Georges Dole, que le statut social du travailleur ecclésiastique s'est détaché de la personnalité religieuse pour s'insérer dans des structures laïques. Quelques limites à cet alignement demeurent. Tout d'abord, il faut évoquer le cas du droit à la retraite qui est tardivement exercé par les prêtres catholiques. Un des prêtres que je rencontrais dans un diocèse de province a commencé l'entretien que nous avions par la phrase suivante « J'ai un peu l'âge d'être à la retraite, j'ai 68 ans ». Or, les prêtres âgés de plus de 60 ans sont désormais très largement majoritaires dans le catholicisme français. Ils représentent plus des trois quarts du clergé. Et peu à peu, on a pris l'habitude de les considérer comme jeunes. Donc certes, le temps où les ministres ordonnés mouraient à l'autel est révolu, du moins pour les prêtres et les évêques, à l'exception peut-être de celui de Rome. Cependant, certaines limites persistent. Généralement, les prêtres poursuivent leur activité jusqu'à 75 ans, conformément aux prescriptions canoniques. Certains sont même encouragés à poursuivre au-delà des 75 ans. Certains le souhaitent d'ailleurs et continuent parfois à résider au presbytère de leur dernière paroisse et s'offrent ainsi comme un service d'appoint pour la célébration de la messe ou la présidence de certains obsèques, de certaines obsèques. Signalons aussi le montant tout à fait modique des pensions versées, malgré l'existence d'un fonds national de péréquation mis en place par l'Assemblée plénière de l'Épiscopat en 1979. C'est à peine plus de 400 euros. Précisons, pour finir avec la retraite, qu'en matière de pension, la situation des rabbins qui cotisent au régime de retraite des cadres est bien meilleure que celle des prêtres et des pasteurs. Il y a aussi toute une série de trous dans le filet de la protection sociale des professionnels du religieux. Par exemple, l'Église catholique n'a pas souhaité s'associer à la couverture maladie universelle, alors que pourtant les prestations fournies sont meilleures que celles de la CAVIMAC. Les prêtres catholiques ne sont toujours pas couverts contre les accidents du travail. Contrairement notamment aux pasteurs et aux rabbins qui, de fait de leur assimilation aux salariés, le sont. Enfin, il faut signaler le flou de la situation des imams au regard de la sécurité sociale. Théoriquement, je l'ai dit, ils sont assimilés aux prêtres catholiques et ils ne sont donc pas considérés comme salariés et, je l'ai dit, ils peuvent relever de la CAVIMAC. Mais dans les faits, tous sont loin de l'être, notamment parce que les imams, ceux qu'on appelle les imams du vendredi, qui sont en charge donc, de la prière du vendredi, ne sont que des ministres du culte occasionnel. Donc on peut penser qu'ils jouissent d'une protection sociale liée à leur activité professionnelle par ailleurs. D'autres relèvent de l'aide sociale, mais certains échappent purement et simplement au système, étant soit non affiliés, soit non protégés du fait de l'absence de cotisations versées par leur communauté. Enfin, il faut dire que les prêtres, comme les pasteurs et les rabbins, ne bénéficient pas de l'assurance chômage. Ces chômeurs de Dieu, en quelque sorte, lorsque ce cas un peu atypique se présente, ne sont pas assurés. Alors, il est assez intéressant de... Ce cas est assez... c'est assez peu étonnant, si vous voulez, vu la conception notamment catholique d'un sacerdoce total et définitif. Cependant, les départs de prêtres ont été nombreux dans les années 60-70. Il y en a encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si la NPE ne leur offre pas d'indemnisation versée par les acidiques, elle accueille leur volonté de prise en charge d'une reconversion professionnelle, ça c'est assez intéressant, notamment dans les emplois relevant de la formation et du travail social. Et j'ai rencontré l'été dernier un jeune prêtre d'un diocèse de province qui, après 10 ans... dans l'Église catholique, avait fait le choix de partir et qui avait été très surpris de la bienveillance de l'accueil que lui avaient réservé les services de la NPE en lui disant de ne pas avoir de complexe et de réécrire son CV en transposant en quelque sorte les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu'il avait acquis dans l'institution ecclésiale en compétences purement profanes, ce qui montre que finalement il y a une reconnaissance en quelque sorte de la professionnalité même des ministres des cultes par des agents extérieurs à l'institution. Pour conclure, je dirais que les particularités propres à la condition des ministres des cultes ne sont plus si nombreuses aujourd'hui. Elles sont d'ailleurs davantage le fait de résistances internes aux groupes religieux que de celles des pouvoirs publics. Qu'il s'agisse des résistances actives des autorités catholiques, qui, je l'ai dit, ont été nombreuses au cours du siècle du fait de l'attachement à l'idéal sacerdotal, mais aussi des résistances passives dans le cas des communautés musulmanes en voie d'institutionnalisation depuis la création du CFCM. Le principe de liberté de religion conduit d'ailleurs les autorités séculières à respecter, ça c'est le point capital, les formes d'organisation interne adoptées de manière autonome par ces groupes. En définitive, on assiste donc, malgré la persistance de certaines spécificités, à une banalisation du statut clérical par alignement sur des modèles profanes. Ajoutons, pour avoir un petit élément de comparaison européenne, que les prêtres de l'Église anglicane se sont vus octroyer en février 2004, après acceptation du synode général et vote du Parlement britannique, un nouveau statut juridique qui, sans aller jusqu'à la signature d'un contrat de travail de plein droit, leur offre de nouvelles garanties en matière de protection sociale. Droit au congé payé, au congé parental, accès à l'équivalent britannique des prud'hommes, ainsi qu'à des indemnités de licenciement. Cette réforme reflète un degré supérieur de sécularisation interne des clercs anglicans par rapport à leurs homologues catholiques. Je vous remercie.
C'était Céline Béraud, sociologue, membre du Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux, qui s'exprimait lors d'un des colloques organisés par l'Académie des sciences morales et politiques pour la commémoration de la loi de 1905.